Notre Dieu, notre Père, nous te louons et te bénissons, toi qui nous accueilles ce matin, les bras grands ouverts. Oui, je crois que tu es ce Père de la parabole du Fils prodigue qui court auprès de nous. Nous avons fait un pas, nous voici ici dans cette salle, tous ensemble, réunis. Mais ce que nous ne nous rendons pas toujours compte, c'est que toi, tu as couru ce matin pour nous rencontrer, pour nous ouvrir les bras et pour nous combler des bienfaits de ta grâce. Alors Seigneur, ma prière, c'est tout simplement que nous puissions te déposer tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui alourdit peut-être notre cœur, afin que nous puissions être libres, libérés de recevoir toutes les bonnes choses que ce matin tu as à nous donner. Merci parce que tu connais chacun, les situations de chacun, l'état du cœur de chacun. Et je crois, Seigneur, que tu as pour chacun quelque chose de bon. Alors merci, et nous te rendons grâce. Amen.
Waouh. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Quelle joie d'être au milieu de vous. C'est vraiment une joie. Mon cœur, il palpite d'être là. Et quelle joie aussi de voir combien le Seigneur nous bénit. Merci à tous ceux qui sont là, qui nous permettent d'entrer dans la présence du Seigneur. Il vous utilise pleinement avec qui vous êtes. Je prie aussi qu'on ne prenne jamais ça pour un acquis, comme quelque chose qui nous est dû, que le Seigneur soit si bon qu'il nous permet de nous rassembler comme ça, librement, tous ensemble. Waouh ! Qu'il nous accorde même des musiciens qui donnent leur don, de leur temps, pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Et je ne prends pas ça pour un privilège de pouvoir me tenir là devant vous, parce que tout vient de lui. Je ne pourrais pas le faire sans ce qui vient de lui. Je veux aussi remercier Roger de m'avoir invité de pouvoir vivre ce privilège-là. Et puis là aussi, qu'on ne prenne jamais pour acquis qu'on a un pasteur avec Dominique, sa famille, qui ont consacré leur vie pour prendre soin des brebis du Seigneur, pour prendre soin de nous. Ce n'est pas un truc qui est acquis. Ce n'est pas un truc comme ça qui nous est donné parce qu'on le mérite. C'est la bonté du Seigneur. Et le Seigneur, il est bon. Et vous savez, je suis tellement réjoui. Déjà, vous êtes beaux. Vous l'êtes, chacun de vous. Je n'ai pas pu encore faire le tour de tous, mais vous êtes tellement beaux. Et vous avez une valeur tellement précieuse aux yeux du Seigneur. Vous savez, la valeur des choses, c'est ce qu'on est prêt à payer pour ces choses. C'est pour ça que des fois, on trouve que des tableaux valent des millions. Ça n'a pas de sens. Mais les gens sont prêts à payer pour ça. Et chacun de vous, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et la valeur que Dieu, le prix que Dieu a été prêt à payer pour chacun de vous, tellement il vous aime. C'est la vie de Jésus à la croix. Waouh ! Le seul qui a mené une vie conforme à sa volonté. Le seul. Waouh ! Il a payé pour chacun de nous. Dieu est bon. Et c'est bon d'être là parce que je me sens à la maison. Je suis né en Valais à Sierre, dans cette ville qui est la plus ensoleillée de Suisse. Et puis, ben oui, j'ai grandi mon enfance là-bas et je suis arrivé ici à Genève, où finalement j'ai vécu la plus grande partie de ma vie à Genève. Et même j'ai vécu plus longtemps au milieu de vous que ce que j'ai vécu en Valais. Mais chaque fois que je retourne en Valais, mon cœur il palpite. Ben, je reviens à la maison. Et puis c'est vrai, ben, le Seigneur il nous a conduits ailleurs qu'à Mérin. Mais quand je reviens là, mon cœur il palpite. Parce que je suis né de nouveau ici au milieu de vous. C'est ici que j'ai rencontré le Seigneur. Et c'est ici que j'ai grandi, que j'ai vécu les 15 premières années de ma vie avec lui, au milieu de vous. Et quand je suis là, ben, waouh, je me sens à la maison, je suis au milieu de la famille. Et c'est comme ça que je me sens réellement. Et le Seigneur, il a des bonnes choses pour vous. Et je suis persuadé, je le sais maintenant, pas parce que vous le méritez, mais à cause de lui et de son amour pour vous, le meilleur pour l'église de Mérin, il est devant vous. Il est vraiment devant vous. C'est pas dans le passé, il est vraiment devant vous. au mois d'août 2011. Ben, on était en Australie, on venait de démarrer notre deuxième année là-bas. On était étudiants, on vivait en colocation, et puis on a vécu toutes nos 2 ans en colocation, et au moment des nouveaux colocataires qui nous ont rejoints, ça faisait un mois qu'ils étaient là, on avait rempli les formes pour demander à l'agence immobilière de faire les choses en règle. On reçoit une lettre en retour, au lieu de l'approbation de nos colocataires, ils nous disent « Ok, vous avez 3 mois pour quitter la maison, le propriétaire il veut récupérer la maison et pouvoir en disposer ». On a cherché. À 2 semaines de ces 3 mois, on n'avait rien. C'était la fin du semestre. En l'espace d'une semaine, ma maman qui se battait contre un cancer depuis 3 ans, sa santé, elle a dégénéré. C'est passé de « Ok, il y en a peut-être pour plus que quelques mois » à 2 jours plus tard « Ok, c'est une question de semaine » pour finalement à ce qu'elle s'en aille. Et elle s'en est allée auprès du Seigneur. On était le dimanche soir. Je venais juste de booker un vol où à la base, je venais d'avoir ma maman au téléphone le vendredi. Là où j'ai pu lui dire « Écoute, dans une semaine, on va venir te voir avec Damaris et Meira. » Damaris était enceinte de 6 mois de la deuxième. On va venir te voir dans une semaine, mais elle arrivait presque plus à parler. La fin du téléphone, c'était un silence pendant peut-être 30 secondes. J'ai dit, maman, ouah, on vient te voir. Je raccroche, c'est comme si le Seigneur me disait, c'est la dernière fois que tu as parlé à ta maman. Le lendemain, mon frère, il nous appelle, écoute, dans une semaine, ça ira pas. C'est la fin, ça commence. On s'empresse, le dimanche soir, on book un vol pour venir ici. Le premier qu'on pouvait avoir, le mardi après-midi. Dans la nuit, à 2h30 du matin, je reçois un coup de téléphone de mon frère. Maman, elle est partie. Le lundi, j'avais 3 travaux à rendre. C'était mon jour de congé, mais d'habitude, ce genre de travaux, j'en fais qu'un dans une journée comme ça. J'en avais 3. Et le mardi matin, j'avais un examen de théologie, le seul du semestre. Et l'après-midi, on prenait l'avion pour venir en Suisse pour des funérailles, finalement. On vient en Suisse, on sait qu'on se fait 25 heures d'avion dans un sens, 25 heures dans l'autre sur une semaine, on se prend 10 heures de décalage à l'aller, 10 heures au retour, et quand on est rentré, on n'avait toujours rien pour se loger. On avait une semaine pour vider la maison où on était. Comme ce n'était pas suffisant, il nous restait 2 000 $ en banque, moins d'un mois. J'aurais dû être en train de chercher du boulot à fond, je ne savais même pas où j'arriverais à trouver du temps pour travailler. J'arrivais même pas à trouver le temps de chercher du travail. Le Seigneur, il a pourvu. Au milieu de ça, comme ce n'était pas suffisant, il y avait d'autres détails. Damaris venait de se faire opérer pour la 3e fois d'un ongle incarné, sous antibiotiques, des effets secondaires indésirables. La totale. Et le Seigneur, il a pourvu. Juste à temps, en toute chose. On se retrouve, on déménage. Ok, waouh. On arrive à un endroit qui s'avère être une solution temporaire. Un mois après, on doit tout redéménager. Ce n'était pas juste nos valises, c'était tout le mobilier de la toute première maison qui nous était revenu des 2 années et demie accumulées par les autres étudiants et un peu de nous, qu'on ait reçu par la grâce de Dieu. Waouh. En 2 mois, sur 2 mois, on a déménagé 3 fois. La dernière fois, à 10 jours du terme de Damaris. Je devrais pas être devant vous aujourd'hui. Je devrais pas. En temps normal, par mes propres forces, je devrais pas être là. Et je suis là, pas par mes propres forces. Peut-être que, je sais, parmi vous, il y en a qui vivent des épreuves. Elles sont là. Et puis, il y en a d'autres, peut-être, qui voient ça. Et puis, ils sont en même temps dans une situation, dans un cas de figure. Waouh, c'est... Non, moi, j'ai l'impression que je suis béni, que je n'ai pas d'épreuves. Et puis, au-devant de vous, en regardant ce qui se passe, vous êtes peut-être dans la trouille. Que peut-être la prochaine saison de votre vie, c'est des épreuves. Alors, comment on peut se tenir debout au milieu des épreuves? Comment est-ce qu'on peut surmonter, passer à travers des épreuves? Comment est-ce qu'on survit quand ces épreuves, elles nous attaquent de toutes parts et qu'on sent même que ça s'étire et qu'il y en a qui se rajoutent au long du chemin? Au début de cette saison, le Seigneur nous a parlé avec un texte qui est dans Jacques 1, les versets 2 à 4. Et ce texte, il dit « Mes frères ». Alors le mot original qui est traduit ici par « frère », il veut dire « mes frères et sœurs », mais comme faisant partie de la famille de Dieu, des frères dans la foi, dans le Seigneur. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Le terme « d'épreuve » ici, dans le mot original, il y a le sens de « test », tester de la fidélité, tester de l'intégrité, des vertus, de la consistance, aussi par rapport aux tentations, de résister à la tentation. Et puis Paul, il dit, « Oh, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. » Pendant longtemps, quand j'ai lu ça, ça donnait ça. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Mais ça va pas. Paul, il a pété un câble. Il s'est fait la dernière fois qu'il s'est fait lapider, il a pris un caillou sur la tête. Ou alors, il est masochiste, ce Paul. Il est maso, quoi. Non, Paul, il n'est pas maso. Du tout. Mais il sait qu'on peut être heureux et que la joie, elle ne dépend pas des circonstances. Il sait qu'elle dépend de celui qui ne change pas, indépendamment des circonstances. Et le titre de ce que j'ai à vous partager ce matin, ça sera une série en fait. Mais vous aurez que la première partie ce matin, parce que c'est la plus importante. C'est la joie complète dans l'épreuve. Des afflictions, des épreuves, il y en aura. Si elles ne sont pas déjà là, elles le seront tôt ou tard. On vit dans un monde qui est ce qu'il est, un monde en perdition. Le péché est là, les afflictions seront là. Et puis, ce n'est pas une surprise, Jésus nous le dit dans il nous le dit dans Jean 16, 33. Il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Elles ne sont pas une surprise. Comme elles ne sont pas une surprise, il faut s'y préparer. Il faut se préparer. Mais cette préparation-là, ce n'est pas une question de travailler sur nos forces, de faire des push-ups tous les matins. J'en fais. Mais ce n'est pas de travailler sur nos propres capacités. Parce que la réponse, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus lui-même. La solution, elle est en lui. Elle est en lui. Et la victoire, elle est par lui. Et toute la gloire, elle est pour lui seul. Et tout est en lui, tout est en lui. Dans Colossiens 2, 3, ça nous dit qu'en lui, en Christ, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Pourquoi c'est caché? Parce que c'est en lui. Quand on n'est pas en lui, on n'a pas accès à tous ces trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en lui. Et quand on est en lui, c'est plus caché. C'est des trésors de la sagesse et de la connaissance. Dans Jean 16, 33, un petit peu avant, déjà au verset 32, il nous dit, Jésus dit à ses disciples, « Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. » Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. C'était juste avant de nous dire, mais dans le monde, vous aurez à souffrir des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. Donc Colossiens 2,10, ça nous dit, mais par votre union avec lui, le Christ, vous êtes pleinement comblés. Parce qu'il est le chef de toute autorité, de toute puissance. Dans votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Vous savez tout, c'est un présent. Dans votre union, quand vous êtes unis avec lui, vous êtes pleinement comblés. C'est un présent, vous l'avez, tout ce que vous avez besoin. C'est en lui. Dans Philippiens 2, 13, il nous est dit que c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Quand vous êtes unis en lui, c'est Dieu lui-même qui agit en vous, en chacun de vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire. Dieu, il ne peut pas, ça ne peut pas être que Dieu lui-même agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire si vous n'êtes pas dans l'union avec lui. Parce que il nous a donné le libre choix, il veut qu'on choisisse de l'aimer. Il ne peut pas agir sur notre volonté si on ne le veut pas. On doit choisir de l'aimer, de venir à lui. Mais quand on fait ce choix, il a le feu vert. Il peut agir. Dieu lui-même agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à ses projets, à son projet, plein d'amour. Et son projet, il est plein d'amour. Dans Jérémie 29, 11, il nous dit, car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Dieu est avec vous, pas contre vous. En votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez. Et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Il y a un truc qui m'a frappé ici. Ce sont des projets de paix et non de malheur. L'opposition du malheur, c'est pas le bonheur. C'est la paix. La paix. Cette paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, qui est indépendante de toute circonstance, quelle qu'elle soit, qu'on peut rencontrer dans notre vie. La paix. Et Jésus, dans Jean 14, 27, il nous dit, il s'exprime ainsi, « Je pars ». Oui, il s'en est retourné au Père. Mais il dit, je vous donne la paix. C'est ma paix, il nous dit, ma paix, la sienne, que je vous donne. Et je ne la donne pas comme le monde donne. Parce que la paix du monde, elle dépend des circonstances. Si votre vie, tout va bien, j'ai la paix, cool. Quand ça ne va plus, la folie. Mais Jésus, il nous donne sa paix. Parce que sa paix, elle dépasse toutes circonstances. Et déjà au verset 1, dans Jean 14, il nous dit, mais que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Parce que quand il dit, je vous la donne, la paix, pas comme le monde donne, il nous dit derrière, mais c'est pourquoi, parce que je vous donne ma paix, c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. N'ayez aucune crainte. Je vous donne ma paix. Et c'est en Jésus, c'est dans quand on est en lui, dans cette union, dans cette intimité avec lui, qu'on reçoit sa paix. C'est dans cette intimité avec lui que, par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblé. C'est dans cette union que vous recevez la paix. Dans Jean 14, 23, Jésus dit à Jude, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons nos demeures chez lui. Si quelqu'un m'aime, il obéira. » La condition à l'obéissance, c'est d'aimer Dieu. Et pas l'inverse. C'est pas en cherchant à obéir à tout prix, à tout ce qu'il a dit, que je vais finir par aimer Dieu. La condition à l'obéissance, c'est l'aimer. Chercher à l'aimer. Soyez en paix avec ça. Ça vient même pas de vos propres forces. Aimer Dieu, ça ne vient pas de vos propres forces. Parce que la même grâce, faveur imméritée de Dieu, par laquelle on est sauvé, c'est la même grâce par laquelle on doit marcher. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, mais par la grâce, faveur imméritée, qu'aucun ne nous mérite, que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pourquoi ? Ça ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Toute la gloire, elle est pour lui. Et de la même manière que ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut se sauver, c'est de la même manière que ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut marcher, qu'on peut obéir à ses exigences, qu'on peut vivre selon les standards de Dieu. On n'y arrive pas. Je n'ai jamais réussi. On n'y arrive pas. Il ne faut même pas essayer. Il ne faut même pas essayer. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on essaye d'obéir par nos propres forces, on ne marche plus par la foi. On ne marche plus par la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible à plaire à Dieu. On n'y arrive pas. Et puis on n'y arrive pas parce que l'homme livré à lui-même, et Paul le décrit très bien dans Romains au chapitre 6 et 7, l'homme livré à lui-même, il est sans force. Il a la volonté, oui, mais il n'a pas les capacités. Il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Le péché. On est sans force. Et puis, cette grâce-là, par laquelle il nous dit « Waouh, je vous sauve », c'est un cadeau. Quand vous choisissez d'accepter le cadeau que je vous ai fait. Cette même grâce, c'est celle qu'on doit venir puiser tous les jours. Pour marcher avec lui, on doit puiser cette grâce tous les jours. Parce que la grâce d'hier, elle ne va pas pour demain. La grâce, elle se renouvelle chaque jour. Chaque jour, elle se renouvelle. Et il faut venir à la source chaque jour. Et on peut le faire. Hébreux 4, 16 nous dit, mais approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce. De la faveur imméritée, avec une pleine assurance. Et on peut le faire parce que cette assurance, c'est Jésus à la croix qui nous la donne. Il n'y a plus de condamnation, on peut venir à lui, on est libre, on peut s'approcher du trône de grâce, pas à cause de ce qu'on mérite, à cause de ce que lui, il a fait. Approchons-nous du trône de grâce avec une pleine assurance. Et là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce, faveur imméritée, pour que nous soyons secourus au bon moment, là où on en a besoin. Et on a besoin de venir chaque jour pour être dans cette union avec lui. On est dépendant de sa grâce, on en a besoin, on n'a pas les forces. Même dans le Notre Père, ça dit, donne-nous aujourd'hui notre pain dont nous avons besoin. Ce n'est pas juste notre nourriture terrestre. Oui, on en a besoin et il nous le donne chaque jour. Il prend soin de nos besoins. Mais il prend soin de tous nos besoins. C'est pour ça qu'il est vital d'être en Christ, dans une relation d'intimité avec lui, dans cette union. Et ça, ça ne se passe pas de manière sporadique, ni avec juste de la théorie, de la connaissance à son sujet. C'est comme la vie de couple. C'est comme la vie de couple. Je ne peux pas devenir amoureux de Damaris, mon épouse, et je l'aime de plus en plus. Je ne peux pas être et que mon amour pour elle augmente juste parce que je connais maintenant un petit peu la théorie à son sujet. Et puis de temps en temps, je viens vite avec elle, puis je lui dis ce que j'ai besoin, comment j'aimerais qu'elle réagisse avec moi, et voilà. L'intimité, c'est la connaissance du cœur de l'autre. Chercher à s'intéresser à lui, chercher à s'intéresser à elle. Connaître son cœur, lui partager le mien, voilà où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, tac. Et quand on connaît le cœur l'un de l'autre, on s'aime. Et puis au lieu de partir dans une relation où on reçoit un certain bagage d'amour, et puis que c'est une pente descendante qui après atteint un certain plat, mais certaines fois, le plat il s'arrête. Eh bien, on continue à se connaître. Et puis notre amour, il paraît avec un certain potentiel, mais il peut grandir, il peut augmenter. Et c'est la même chose avec Dieu. On ne part pas avec un amour pour lui. C'est ce qui se passe. On part avec un amour pour lui, reçu par le salut en lui. Waouh ! Wouhou ! Cadeau, grâce imméritée, il nous sauve. Il nous promet la vie éternelle en lui. Cadeau extraordinaire qu'on ne mérite pas. Waouh, je t'aime Seigneur. Et maintenant, je fais tout, sauf de continuer de m'intéresser à lui, de chercher à l'aimer lui. Et pour le connaître, lui, ben, c'est sûr que c'est vital de se nourrir de sa parole. Il a créé tout l'univers par sa parole. Il n'a pas levé le petit doigt. Par sa parole. C'est sa parole qui va aussi faire toute son œuvre en nous. On a besoin de se nourrir de sa parole. Mais pour le connaître, lui, pour continuer de chercher à connaître lui, qui il est, son cœur, qu'est-ce qui se passe là ? Et puis sa parole, ben, c'est des graines qui se sèment en nous. Des graines qui vont amener une grande récolte dans notre vie, au moment où on en a besoin. C'est tout plein de choses qu'il sème en nous. Dans Jérémie 29, 13, il nous dit, « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Se nourrir de la parole, ça ne se fait pas en coup de vent. Ça ne se fait pas comme du fast-food. Ça ne se fait pas non plus pour acquérir de la théorie. Et puis de connaître des choses à son sujet sans jamais le connaître, lui. Parce que cette théorie, elle ne nous donne aucune force. Elle ne nous donne aucune force. C'est lui. Qui nous donne la force. Ce n'est pas la théorie. Alors peut-être que vous êtes là, oui, mais de tout notre cœur, moi je n'y suis pas de tout mon cœur. Vous savez comment Vous pouvez aimer le Seigneur de tout votre cœur, avec tout votre cœur, tel qu'il est. On a la volonté, mais non le pouvoir, non la capacité. C'est là où Dieu est bon. Parce qu'on peut faire un choix, le choix de lui, quand on est sans force. C'est juste un choix. On vient à lui. On peut même venir à lui. Seigneur, je t'aime pas. Seigneur, je t'aime pas. J'essaye, mais j'arrive pas. Mais je veux t'aimer. Je veux apprendre à t'aimer. Mais j'arrive pas. Je t'aime pas. Je peux pas dire que ça serait mentir. Et on peut être honnête avec Dieu. On peut venir avec lui, devant lui, avec un cœur aussi dur qu'il est. Parce que dans sa grâce, quand on fait le choix, qu'on dit, Seigneur, je veux chercher à t'aimer, je veux te connaître, mais pour l'instant, je ne te connais pas bien, et puis, pour l'instant, ben, je ne t'aime pas. Et c'est normal. Mais à partir du moment où on fait ce choix-là, c'est lui, Dieu lui-même, qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet, plein d'amour. Et la prière la plus extraordinaire et la plus efficace que vous puissiez faire, c'est celle qui rejoint le cœur de Dieu. C'est quoi cette prière ? Seigneur, et cette prière-là, je la fais depuis des mois, tous les jours. C'est Seigneur, tu m'as aimé le premier, donne-moi de l'amour pour toi. Donne-moi de l'amour pour toi. J'en ai pas. Donne-moi de l'amour pour toi. Il peut que répondre à cette prière, si vous le faites honnêtement en venant à lui pour chercher à le connaître. Il peut que répondre. Parce que Dieu, il vous aime tellement, il a fait ce choix dès le départ. Il va vous donner de l'amour pour lui. Et c'est dans l'union avec lui. Venir puiser au trône de sa grâce tous les jours que ça se passe. Il donne. Et il transforme. Et tout d'un coup, on commence à l'aimer. Et on se met à obéir. Plus avec nos propres forces, avec les siennes. Je suis obligé de prendre ma Bible. Une de mes Bibles, où j'ai plein de différentes traductions et puis que j'ai pas pris avec moi celle que je voulais. Mais dans Jean 5, il nous dit, vous étudiez avec soin les Écritures. Il dit ça, pardon, il nous dit pas, mais je crois qu'il nous dit aussi des fois. Mais il s'adresse aux pharisiens, à ceux qui sont censés le connaître, qui connaissent plein de théories à son sujet. Il dit, vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Oui, ça se trouve là, il y a les clés, tout est là. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi, dit Jésus. On parle de moi. Ce bouquin-là, il parle de Jésus du début à la fin. Il n'y a pas une seule page qui ne parle pas de Jésus et de l'amour du Seigneur. Tout là-dedans est fait par amour. Et il dit oui, mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie, une vie abondante, la vie abondante. Une abondance de vie. Et voilà, vous ne voulez pas. C'est juste un choix. Ils ne veulent pas, ils ne s'intéressent pas à lui. La théorie, c'est plus intéressant. Et puis pourquoi il continue, il dit, Jésus, il dit, je ne cherche pas à applaudir, à être applaudi par les hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je ne suis pas venu au nom de mon Père et vous ne me recevez... Pardon. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous êtes prêt à le recevoir, vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns des autres, les uns par les autres, et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? On peut chercher à acquérir de la théorie. Comme ça, on sait. Comme ça, on sait. Ça le fait bien de savoir plein de trucs. Mais cette théologie, notre théologie, quand c'est que de la théorie, elle sert à rien d'autre qu'à nous pousser en bas du piédestal que notre orgueil qu'on a réussi à construire par notre connaissance. si ce n'est pas lui qu'on veut. Cette parole, elle permet de nous équiper, d'avoir les armes au bon moment. Elle est l'épée de l'esprit, ce que le Seigneur nous donne. Quand tout d'un coup on est équipé de la parole. L'Éternel, le Dieu de toute éternité, qui ne change pas, est mon berger. Waouh ! Par sa grâce, faveur imméritée, il me fait reposer dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui, qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Ouais, parce que ceux qui se confient en lui, ils renouvellent leurs forces, nous dit Ésaïe. Il me rend des forces neuves. C'est lui qui les donne. Et pour l'honneur de son nom, il me conduit pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. C'est intéressant, David, là, il ne dit pas, mais si je devais traverser les ténèbres ou règne les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. Non, il dit, car tu es auprès de moi. Parce qu'il y a cette union. Il est déjà là. Dieu est auprès de lui. Il s'est approché de Dieu, Dieu s'approche de lui. Car ta houlette me conduit, ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Sa parole, elle est cette arme. Mais la théorie, elle fonctionne. Pas quand elle est de la théorie. Il nous dit, d'ailleurs, de ne pas juste en faire de la théorie, mais de la mettre en pratique. Et la mettre en pratique, ce n'est pas chercher à obéir, c'est chercher à l'aimer. La pratique s'ensuit. Et c'est intéressant parce que il nous a parlé par Jacques, ce passage de Jacques, dès le début de cette saison qui était la nôtre, et aussi par une traduction en anglais de Message. C'est en fait pas une traduction, c'est une paraphrase. Mais j'essaie de la traduire en français. Et puis ça donne cela. Considérez cela comme un don, un pur don. Les amis, lorsque des tests et des défis viennent à vous de tous les côtés, vous savez que sous la pression, votre vie de foi est forcée au grand air et montre ses vraies couleurs. Alors, n'essayez pas de sortir de quoi que ce soit prématurément. Laissez-les, donc ces défis, ces épreuves, faire leur travail de manière à devenir matures, bien développés, pas déficients d'aucune manière. Des adultes, pleins de force, à qui ne manque rien. Les épreuves, elles sont aussi révélatrices de où on en est dans cette union avec le Seigneur. On a eu d'autres épreuves avant le condensé massif qui nous avait attendu. Les premières épreuves, ça a montré exactement, il manquait l'union. Elle n'était pas là. Ça montre là où on en est avec le Seigneur. Quand on est sous la pression, c'est là où tout d'un coup, waouh, c'est comme un grand vent qui vient, qui souffle, qui enlève tout ce qui ne tient pas vraiment. Et puis tout d'un coup, on voit ce qui tient. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, il vous aime, il est avec vous et pas contre vous. C'est une certitude. Son amour est inconditionnel. Et c'est sa grâce, c'est l'expression la plus « waouh » de son amour inconditionnel. Une faveur imméritée. Dieu est bon et sa première qualité reste que c'est un Dieu d'amour. Dieu est amour, oui, c'est un Dieu juste, il fait justice, il veut la justice. Mais Dieu est amour. Et dans son amour inconditionnel, il ne permet même pas qu'on soit tenté au-delà de nos propres forces. 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation, aucune épreuve, aucun test ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Elles sont là, ça se passe. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas vous soyez tentés, éprouvés, testés, au-delà de ce que vous pouvez supporter, au-delà de vos propres forces. Et avec l'épreuve, la tentation, ce qui se passe, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mais chaque épreuve est une tentation. Elle est une tentation de dire, Seigneur, je veux continuer à t'aimer, je n'ai pas les forces. Et de rester connecté à la grâce pour recevoir ce qu'on a besoin. Ou de dire, oh non, la théorie, ça ne marche pas. Parce que la théorie, quand on ne connaît pas le Seigneur, c'est, mais qu'on connaît la théorie, je puis tout par Christ qui me fortifie. Hop, et j'y vais. Mais on a oublié, par Christ qui nous fortifie. C'est lui qui nous fortifie, ce n'est pas la théorie. Mais la théorie, elle marche, parce que c'est par lui. Et Dieu est bon. Et il le fait. Il nous respecte là où on en est, dans nos limites. Le même condensé d'épreuves, une année plus tôt, je serais dans une caisse en sapin. Déjà. Et puis je me serais présenté au Seigneur. Puis on m'aurait dit, t'es qui toi? T'es qui toi? Ouais, mais tu, j'étais sauvé. Hein? Mais je t'ai pas connu. Mais il sait ça. Ce qu'il veut, c'est qu'on le connaisse, qu'il nous déverse son amour, qu'on puisse expérimenter cet amour et sa faveur imméritée d'une manière waouh, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Et puis, ces épreuves, il les utilise pour qu'on devienne adulte, plein de force, des gens à qui il manque rien. Pour passer dans les épreuves, il faut être préparé. C'est le premier point, il faut se préparer. Et en même temps, on est peut-être déjà dans l'épreuve, on a l'impression qu'on n'était pas préparé. Mais le Seigneur est bon dans l'épreuve. Souvent, il nous pousse à lui. On vient là où on en est, avec nos limites. Elle nous montre nos propres limites. Et il nous donne les forces quand on vient dans l'union avec lui, quand on vient avec lui. Seigneur, je veux t'aimer, j'arrive pas, regarde ce qui m'arrive, je suis complètement tourmenté. C'est pas de venir à lui vite chercher, de lire ma Bible vite le matin parce que j'ai besoin de la théorie, j'ai besoin de la théorie. Je viens vite lire un peu de la Bible parce que si je lis de la Bible, j'ai la théorie, je peux aller appliquer la théorie. En oubliant que c'est lui dont on a besoin. Et quand l'union, elle est là, waouh, waouh, il se passe des choses. On ne peut pas passer du temps avec lui sans être transformé. Et la transformation, elle se passe quand on passe du temps avec lui. Elle se passe. Et il faut qu'on soit préparé. Parce que les épreuves, elles seront là. Elles ne sont pas une surprise. Ecclésiaste, il nous dit, mais en effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets perfides. Il ressemble aux oiseaux attrapés dans des filets. Les humains sont surpris par le malheur qui font sur eux à l'improviste. Ce matin, on était sur la route pour venir là. Oh, accident, voiture, police, tout. Il n'y avait plus que la voiture, une carcasse retournée sur le dos à côté de la route. Ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être nous. Il nous dit aussi, ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas, ça c'est dans Proverbe 27, tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. Puis être préparé, c'est pas se faire du souci. C'est pas commencer à se tourmenter pour tout ce qui va arriver. Et le Seigneur nous dit, en Philippiens 4, ne vous mettez pas en souci, pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, venez à lui. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre connaissance. Alors la paix de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, et j'en témoigne, c'est surnaturel d'être au milieu des épreuves de tous les côtés. Et puis de se retrouver avec la paix de Dieu, tout d'un coup, il y a cette union, il nous donne tout ce qu'on a besoin, on expérimente sa paix. Waouh! Waouh! Il nous arrive tous les pires trucs. Au bout d'un moment, le seul truc que ça fait, c'est qu'on se réjouit. Et on voit tout d'un coup dans l'union, il nous montre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je peux apprendre de ces situations? Et puis il est en train de nous amener à l'état d'adulte. Plein de force. Des gens auxquels il ne manque rien. Et puis on est là, on finit presque par se réjouir des pires choses qui puissent nous arriver. Considérez-vous heureux quand il y a des épreuves. Ouais, parce que plus c'est impossible, plus il va se manifester avec quelque chose d'impossible. Parce que tout est possible à Dieu. Et je vais terminer avec ça. Heureux, l'homme qui se tient ferme face à la tentation aux épreuves. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu promet à ceux qui l'aiment. Vous savez, la maturité en Christ, ce n'est pas prier pour que des montagnes se déplacent et de les voir se déplacer. La maturité, elle se voit quand les montagnes, elles ne bougent pas. Le Seigneur, il a des bonnes choses pour vous. Il a vraiment des bonnes choses. Et le meilleur pour l'église de Mérin. Il va dépasser tout ce que vous pouvez concevoir quand il y a cette union. Tout ce à quoi on s'acharne depuis des années, à essayer. Il va le faire. Il veut le faire quand on est unis. J'aimerais vous inviter à baisser vos têtes et à fermer les yeux. Le Seigneur vous aime tellement fort. Je crois qu'il a parlé à plein d'entre vous parce qu'il vous aime justement. Et là où vous en êtes, aujourd'hui, il veut vous rejoindre les uns les autres, chacun. Il n'a aucun en reste. Il aime chacun pareil, il traite chacun différemment. Parce que nos besoins sont différents. Peut-être que vous êtes là en train de vous dire, oui Seigneur, ben, j'ai besoin, j'ai envie de répondre, de dire je fais le choix. Ou je refais ce choix de venir à toi. Tel que je suis, peut-être je ne t'aime pas maintenant. J'aimerais vous inviter, tous ceux qui sont peut-être là, avec le besoin de refaire ce choix, ou peut-être vous l'avez même jamais fait. De dire « Seigneur, viens, change-moi. » Ceux où ça résonne au-dedans de vous, je vous invite à lever la main là où vous êtes. On a les yeux fermés, ce n'est pas dans le regard des uns sur les autres. C'est au Seigneur que vous répondez. Et le Seigneur voit. Il répond à vos mains levées et je veux prier pour vous. « Seigneur, on te loue pour ton amour. Je te loue pour ton amour. Tu connais les mains, tu connais les cœurs. Je te prie maintenant, par ta grâce, cette faveur imméritée, de rejoindre chacun de ceux qui font le choix de te laisser agir, de chercher à t'aimer. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire, à toi seul. Amen.